France Inter.
Merci Laetitia, on vous retrouve à 17h pour un nouveau point sur l'info.
Le paradis naturiste.
Les femmes, ça va encore, mais les hommes, c'est moche.
Vous savez très bien pourquoi.
Quand vous voyez des gens faire des courses à poil dans leur camping, c'est moche, c'est pas beau, c'est pas sain, c'est pas propre. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous, l'émotion me prend à la gorge cet après-midi au moment de vous accueillir dans le tout dernier numéro de Zoom Zoom Zen de la saison. Manon, je vous en prie, prenez sur vous, c'est suffisamment dur comme ça. Hier, nous avons fait nos adieux à Christine et William du bistrot Blériot. Cyril a fondu en larmes, salopant la béarnaise. Quentin a demandé si on pouvait avoir 20% sur les cafés. William a dit que non, fallait quand même pas déconner. Bref, un beau moment de partage. Et nous voici donc aux portes de l'ultime émission de la saison, la 384e. Tant de souvenirs se bousculent à l'heure de l'inventaire. L'enthousiasme enfantin de Cyril Lacarrière brandissant le tableau Velleda et lançant, oubliant qu'il était entré dans sa 50e année, en route vers la saison 3. Phrase culte à laquelle succéda immédiatement un craquement lugubre qui résonne encore dans l'open space 6C32 et qui fait que son été, Cyril va le passer en maison médicalisée à Palavas-les-Flots. La fois où Quentin avait demandé des nouvelles de sa mère à une passante et qu'elle n'aurait pas dû.
Non, parce que ma mère est morte.
Pas de chance.
Pas de chance, oui. Pas de chance, c'est le cas de le dire. La fois encore où Manon avait cru qu'Alain Souchon était décédé et qu'elle ne comprenait donc pas comment Quentin avait pu la voir dans son micro-trottoir.
C'est horrible.
Oui, on en aura vécu des moments magiques ensemble sur cette deuxième saison. Et c'est grâce à vous, chers auditeurs, sans cesse plus nombreux à nous écouter. Alors, comment terminer cette saison en beauté sans nos slips, a répondu Cyril. Je lui ai répondu, pardon. Il m'a dit, oui, si on faisait une émission sur le naturisme, il y a une expo super au MUCEM. J'y suis allé en avant-première avec Antoine Bueno. On a adoré. Voilà, chers amis, comment est née cette émission dédiée donc aux joies simples du naturisme? Alors, qui le pratique? Est-ce que, sociologiquement, le naturisme a changé ces dernières années? Est-ce que le regard sur le naturisme a changé? Quelles sont les adresses de Cyril? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
En route vers la saison 3.
Ah, il est beau.
Ouais, on devrait enregistrer un jingle là-dessus. On devrait le diffuser tout l'été. Amélie Lavin, Bernard Andrieux, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Amélie, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine au MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. Bernard Andrieux, vous êtes philosophe, mais pas que, puisque vous êtes aussi professeur en STAPS à l'université Paris-Cité. Vous êtes l'auteur de Nudité, philosophie des naturismes, paru aux éditions Épure en novembre 2023, et vous êtes retrouvés tous les deux pour diriger ce livre magnifique, Paradis naturiste, aux éditions de La Martinière, un beau livre publié dans le cadre de l'exposition du même nom, qui commence mercredi prochain au MUCEM, et qui est jusqu'au 9 décembre prochain, je crois, avec une avant-première le mardi.
La veille.
Alors, vous allez nous raconter l'évolution du naturisme, juste le temps de vous présenter ceux qui ont choisi de rester habillés pour la dernière, contrairement à ce que leur avait demandé leur rédacteur en chef, qui depuis ce matin les incite très lourdement à se dévêtir en diffusant dans l'open space des messages musicaux subliminaux. C'est vraiment fait avec beaucoup de délicatesse. On connaît là le management de Cyril Lacarrière. Quentin, lui, Manon Mariani, bonjour.
Bonjour
Mathieu.
À tous.
Bonjour tout le monde.
Quentin, ça vous fait quoi de vous dire que c'est la dernière de l'année?
Ah, je suis ému. En plus, j'entends des souvenirs.
J'ai cru que vous alliez dire, je suis super content.
Aussi, parce qu'il y a aussi une partie où je suis content de ne plus vous voir.
Deux sentiments se mélangent.
Oui, c'est ça.
Ah ouais, si tu veux, tu peux plus nous voir aussi pendant plus longtemps. Hein. Les contrats sont pas signés encore.
Attention, Quentin.
J'en retrouve rien.
Fais très attention.
Ce chantage affectif.
Payé en cash.
Ça, c'est bien possible. Une dernière fois, vous êtes parti à la rencontre des gens. Le naturisme, ça les tente?
Pas trop. Beaucoup d'a priori, vous l'avez entendu, de clichés, d'idées reçues sur un thème relativement tabou, je dois le reconnaître. Mais alors, pour vivre nu, vivons cachés. Heureusement, ma chance éternelle était avec moi encore pour un beau témoignage et une adresse,
hein,
d'un paradis naturiste quelque part sur le globe, Mathieu.
Quelque part sur le globe.
Oui,
c'est vaste.
Faudra traverser l'Atlantique.
Très bien. Manon, dans très peu de temps maintenant, vous allez pouvoir vous retrouver à écouter.
J'ai chanté juste.
Quitte à chanter n'importe quoi, autant chanter juste.
Ça va, Quentin?
Oui, c'est
vrai. Dérange pas.
Pardon.
Ouais. Est-ce que pas trop triste de ne plus me voir pendant tout un été? Déjà que je sais que les
alors
week-ends
si,
sont
vous,
difficiles.
Vous, je suis triste, Quentin, moi.
Ah, voilà, voilà, c'est ça.
Moi, pour les deux.
C'est la bonne réponse. Voilà, ça, c'était la bonne réponse de Fayot. En attendant nos adieux déchirants tout à l'heure, Manon, vous allez nous livrer votre dernière veille sanitaire de la saison au programme.
Et bien, une nouvelle façon de dater utilisée de plus en plus par la Gen Z, le green dating. Et oui, il est maintenant possible
minutes de se mettre au vert sur les applications de rencontre. Fini le sexe à outrance et bienvenue aux rencontres écolo. Je vous explique le concept du green dating dans ma veille sanitaire.
Mais pourquoi les écolos ne pourraient pas pratiquer le sexe à outrance ?
Écoutez, peut-être qu'ils le font, on grand bien leur fasse.
Très bien. Vers 16h30, qui finira cette émission habillée ? Qui devra au contraire retirer ses vêtements et faire trois fois le tour du studio en hurlant en route vers la saison 3 ? Vous le saurez à l'issue du Zoom Zoom Test spécial naturisme, évidemment. En fin d'émission, Marie Debreur, qui ne nous quitte plus, nous rejoindra. Mais entrons dans le vif du sujet. Dans votre livre, Amélie, Bernard, je suis tombé sur cette coupure de presse qui date de 1932 avec cette question « Le naturisme peut-il régénérer le monde ?» Puisque nous traversons une période difficile, je vous pose cette question. Le naturisme peut-il régénérer le monde ?
En tout cas, ça a toujours été le projet de la cure d'air, de cure de soleil, du contact avec la nature. Et dans une certaine mesure, c'est aussi extraordinaire de voir que dès les années 30, il y avait une critique du capitalisme, de l'industrialisation, de la pollution. Et en fait, les naturistes, les végétariens, les nudistes, toutes ces catégories de gens, en fait, ce qu'ils recherchaient, c'était de revenir à la terre, d'avoir des économies courtes, d'avoir des possibilités de pouvoir s'immerger dans la nature, dans le plein air. Et donc, finalement, c'était un moyen. Alors, il y avait un vocabulaire un peu problématique autour de la régénération de la race.
Ah oui, oui, c'est sûr que là, oui, ça, c'est plus terrible.
Voilà, dans les années 30, Amélie.
Oui, en fait, c'est aussi ce qui nous a donné envie de cette expo et de ce catalogue, c'est de voir la concordance peut-être un peu effrayante aussi entre des contextes sociaux et politiques qui ont vu la naissance des naturismes et notre monde contemporain. Et des préoccupations qui sont les mêmes, comme vient de le dire Bernard, effectivement, pour un retour à la nature et des préoccupations médicales, écologistes, etc. quoi.
Et c'est toute cette philosophie derrière le naturisme qu'on va découvrir pendant cette émission. Lui, chaque jour, il régénère le journalisme. Ouais. N'en déplaise à l'autre Cyril, à Luna. Ouais. Il a été pour nous un capitaine souvent bougon, c'est vrai, rarement sobre, c'est vrai aussi, mais tenant fermement le gouvernail de Zoom Zoom Zen. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Et d'ailleurs, votre équipe vous a préparé, je crois, un petit cadeau pour la dernière.
La carrière. Le doux, ça sort.
C'est son cinglé.
Les amis,
je pleure de rire.
Je veux bien.
Je vous avoue que j'ai un peu.
Je veux bien qu'il soit la dernière de la saison, mais n'oubliez pas qu'on a quand même des invités avec nous et ce moment est.
Et vous, Mathieu, on continue à écouter, non
oui.
C'était on le remet.
On vous le mettra sur votre iPod. On va l'écouter chez vous.
Oh là là. Alors, c'était Cyril pendant la prise.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Oui, j'imagine. Cyril, c'est ému que je vous pose pour la dernière fois de la saison la question culte : le naturisme, d'où ça sort ?
Saviez-vous qu'à partir du XVIIIe siècle, le mot naturisme désigne des pratiques thérapeutiques nouvelles fondées sur l'utilisation des éléments naturels et sur des pharmacopées à base de plantes ? Saviez-vous qu'au XIXe siècle se propage l'idée de renforcer les défenses de l'organisme en se fondant sur la nudité ? À l'époque, un paysan illettré a une technique : faire transpirer ses ouailles en leur faisant scier du bois avant de leur appliquer sur le corps nu une eau à 10 degrés. Il paraît que c'était bon pour la santé.
Tout nu, on ne pense plus, on met trop de nuit au bureau, bronzé, bronzé, décontracté, un grand chapeau au pied dans l'eau. Nous tout nu, comme des Jésus, on fait trempette chez les mouettes.
Saviez-vous qu'à partir du XXe siècle, ce terme naturisme a été associé au mouvement utopiste de rénovation sociale en Allemagne et chez vous en Suisse ? Saviez-vous qu'en France, il existe plusieurs hauts lieux de pratique du naturisme depuis l'entre-deux-guerres ? Connaissez-vous le Sparta Club, Physiopolis sur l'île de Platay, Héliopolis sur l'île du Levant, le CHM de Montalivet ou le Cap d'Agde ? Évidemment le Cap d'Agde. Saviez-vous qu'en France, plus de 4 millions de personnes pratiquent le naturisme régulièrement ? À cela, il faut ajouter les 13 millions qui le pratiquent occasionnellement. Alors, est-ce que le naturisme, c'est le paradis ? Est-ce que se dorer la pilule à poil, c'est un truc de boomer ? Ou est-ce que ça plaît aussi à la jeune génération ? Pourquoi est-ce que c'est encore une pratique qui inquiète ? Est-ce que c'est bon pour la santé de bronzer tout nu ? Est-ce que le mouvement du body positive va démocratiser enfin le naturisme ? C'est ce qu'on va voir durant une heure, tout habillé ou tout nu.
Oh, bah ça, on verra bien, Cyril. Justement, vous faites quoi cet été ? Je crois que vous avez un plan avec Pascal Praud, non ?
Ouais, du côté de Noirmoutier.
Côté de Noirmoutier, je crois qu'il y a aussi un petit peu de...
Il y a du cul nu.
Il y a du cul nu aussi, on les embrasse. Bernard Andrieux, comment... vous allez faire, comme vous allez faire office pardon, d'historien du naturisme dans cette émission, pourquoi il y a d'abord eu cette connexion avec la médecine douce ?
Alors, en fait, c'est les médecins qui ont lancé, tu le disais très bien, c'est les médecins qui ont lancé, en fait, au nom de l'hygiène et dans le catalogue, dans l'exposition, on a fait tout un travail, justement, sur le lien entre médecine, hygiène et santé. Pourquoi ? Parce que ça a commencé par l'hydrothérapie, par l'héliothérapie, la cure d'air, le sanatorium, autant de lieux où on était tout nus. Pour profiter des éléments.
Mais qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui ? Est-ce que aujourd'hui la science dit ah oui certaines choses, je sais pas l'héliothérapie par exemple c'est bon pour la santé donc vivons tout nus ou tout ça est remis en cause ?
Alors dans mon travail que j'avais fait sur le bronzage, j'ai montré que bien évidemment à partir des années 70-80, on commence à découvrir les effets cancérigènes. Du soleil. Il y avait déjà des articles dans les années 1880-1920, mais en fait, Fitzpatrick a commencé à coder. Vous savez, aujourd'hui, quand vous achetez un produit à 50, c'est lui qui a fait ça en Australie, parce que les premiers cas de cancérisation majeure de la peau, ils sont apparus là, dans les années 80. Et donc aujourd'hui, par exemple, la grande campagne du gouvernement, c'est passer l'été à l'ombre.
Bah oui,
donc le terme même de bronzage a disparu, et dans l'exposition, on montre justement des photos des années 70 pour montrer le contraste, justement. Ouais.
Amélie, en France, on est une grande terre de naturisme.
Oui, la France est donc la première destination touristique au monde pour les naturistes français et non français, c'est-à-dire à peu près 40% des pratiquants qui sont recensés en fait dans les lieux naturistes sont plutôt allemands et Europe du Nord. Donc il y a vraiment un tropisme français qui est lié à la fois à l'histoire du naturisme et au fait que ce soit en France que de véritables communautés se soient créées dès les années 20. Dont certaines existent toujours aujourd'hui, notamment Montalivet, Agde et le Levant. Et puis, évidemment, il y a la question géographique aussi. Le climat français,
ah oui,
c'est prêt, le fait
qu'il y ait... C'est sûr que sur l'île du Levant, on a envie d'évoluer à poil.
Absolument.
Ah oui, je le dis, c'est en face de chez moi, l'été. Oui. Je les vois. Je les salue comme ça.
Je vous ai vu, Mathieu.
Oui, vous étiez sur l'île de Levant, évidemment. On continue de zoomer sur le naturisme. Et pour rester dans l'ambiance, même pendant la pause musicale, maintenant, vous avez une idée.
Quoi de mieux qu'une chanson qui sent bon le soleil, le sexe et la mer pour commencer le combo idéal de l'été chanté par Serge Gainsbourg en 1978. Le titre a connu un énorme succès grâce au Bronzé, sorti la même année, puisque c'était la musique du générique. Gainsbourg l'a moyennement assumé, il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on écoute cette chanson, on pense à Popeye en slip kangourou, à Jean-Claude Duss en peignoir et à Jérôme en string. Vous avez l'image ? On écoute. Si Sex and Sun, Serge Gainsbourg. Si
Sex and Sun, le soleil au zénith.
excite tes petits seins de bakélite qui s'agitent.
Pour cette dernière de Zoom Zoom Zen, on a décidé de s'attaquer aux questions qui fâchent. J'ai conscience que celle-ci peut être clivante, mais le courage fait partie des vertus cardinales de l'intervieweur. C'est pourquoi je vous pose la question, Amélie Lanvin, Bernard Andrier. Quelle différence faites-vous entre le nudisme et le naturisme ?
Alors,
vous n'êtes pas d'accord.
On n'est pas d'accord. En fait, le nudisme, c'est une composante du naturisme. On entend, dans naturisme, il y a le mot nature.
Okay.
En fait, le naturisme est une philosophie de vie dont le principe premier, on va dire, c'est la reconnexion avec la nature. Mmh. Et la nudité n'est qu'une des composantes de cette philosophie dont font aussi partie, bah, Bernard le disait tout à l'heure, le végétarisme, le fait de vivre sainement et de prendre soin de soi, de faire, pourquoi pas, de l'exercice en plein air, évidemment. Donc c'est une pensée globale, en fait.
Ah, c'est une pensée globale, mais est-ce qu'elle est unique, est-ce qu'elle est homogène, cette pensée globale? C'est-à-dire que le naturisme, c'est le naturisme, ou il y a plein de courants naturistes différents?
Dans les ouvrages et dans le catalogue, dans l'exposition, on a justement structuré des thémas pour montrer la différence entre des gens qui revendiquent simplement la nudité intégrale, voilà, et d'autres, au contraire, qui sont plus, dès le départ, dans un projet, on va dire, de retour à la Terre, de vivre autrement, etc., et dans lequel la nudité n'est même pas forcément nécessaire, et qui vont se revendiquer comme un naturisme spirituel. Je pense à De Marquette, je pense à Paul Carton, qui était lui un végétarien totalement acquis à la cause, mais sans nudité. Mmh.
Si moi je me mets tout nu sur la plage cet été, je suis nudiste, je suis pas naturiste.
Bah ouais, ouais. Ça dépend comment vous vivez ce moment de nudité.
Si je le vis deux heures, je suis pas naturiste.
Ah, plutôt nudiste, ouais, voilà.
c'est
question de déclaration.
Manon, mais du coup, d'essayer aussi.
Non, mais du coup, si je comprends bien, il y a un peu un côté militantiste aussi à faire du naturisme. Il faut être engagé un peu écologiquement.
Alors en fait, il y a des associations qui sont structurées, comme la Fédération française de naturisme, qui est créée en 1950 et qui en fait va labelliser un certain nombre de clubs. Et à l'intérieur de ces clubs, il y a des modes de vie différents. Voilà. Vous avez, moi je suis allé au CHM Montalivet pour les enquêtes et puis pour voir comment ça marche. Les gens, par exemple, se rhabillent le soir pour aller manger au restaurant alors qu'ils sont nus sur la plage ou à la piscine. Donc il y a plusieurs modes de vie. Puis après, vous avez les authentiques, comme on dit, les pionniers qui, eux, font tout. Tout nu dans leur tente.
Est-ce qu'on peut faire un portrait robot du naturiste aujourd'hui en France ou c'est compliqué?
C'est
plutôt
difficile.
Des personnes aisées, personnes
C'est assez marqué dans le temps, dans l'histoire du naturisme. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, les pratiques naturistes sont vraiment plutôt celles de la bourgeoisie. Et puis progressivement, et surtout en fait à partir des années 50, au moment où est fondée justement la FFN, la Fédération Française de Naturisme, à Montalivet donc, c'est un nouveau naturisme populaire, familial, qui va vraiment se déployer. Et c'est le moment où ça devient aussi, évidemment, un phénomène touristique, en fait. C'est lié à la guerre.
En fait, aujourd'hui, pour aller dans la troisième période, aujourd'hui, on est confronté à un rachat par les fonds de pension d'un certain nombre de grands clubs naturistes.
Ah, donc l'esprit va se perdre.
Qui font qu'on va remplacer les vieux campeurs et les vieilles caravanes par des mobilhomes pour pouvoir louer plus cher et toucher un autre public. Et donc, le caractère populaire va se déplacer vers des campings beaucoup plus alternatifs et ruraux, qui se développent aussi beaucoup.
Ouais. Lui, il fait partie d'un tout petit cercle d'initiés qu'on appelle les motos nus. Leur plaisir, sillonner la France au guidon de puissantes cylindrées sans sous-vêtements. C'est très dangereux en cas de chute. Imaginez si vous preniez un platane, Quentin, ça serait du bûche contre bûche. Bref, Quentin,
bûche à bûche
chaque jour, bûche à bûche, effectivement, pourrait vous réanimer. Quentin, chaque jour, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre thème. Alors, est-ce que le naturisme, ça a beaucoup fait réagir?
Je sors du métro, ligne 1. À un mois des JO, les arrêts de métro annoncent les sites olympiques. Pour le château de Vincennes, il y aurait pu avoir le site naturiste qui existe vraiment dans le bois de Vincennes, mais ça ne fait pas partie de l'opération malheureusement. Alors je prends une petite claque de chaleur en sortant des entrailles de Paris, je rencontre cette jeune femme. T-shirt noir oversize, pantalon de chantier, basket noir, est-ce que je peux avoir son prénom ?
Ouais, on peut me demander mon prénom. Enfin, je m'appelle Olivia du coup.
Vous avez quel âge, Olivia ?
J'ai 23 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie là ?
Je travaille à la RATP.
Et ça veut dire que son boss, c'est Jean Castex. Et ça, ça compte. Elle découvre le livre de nos invités.
T'adore le titre ?
Oui.
Le paradis naturiste. Bah, des gens qui se baladent tout nus. Moi, je sais pas, je trouve ça bizarre, perso. Parce que je sais pas, j'ai pas été éduquée comme ça. Donc pour moi, des gens qui se baladent tout nus ensemble, je trouve ça bizarre.
Vous pourriez pas essayer d'être dans une expérience ?
Non. Vous voyez pas, tiens, je m'habille comme un garçon. Vous me demandez d'être tout nu. C'est une partie, genre, intime. Genre, il n'y a plus de secret pour personne. En gros, tout le monde te voit tout nu, je trouve ça bizarre.
Nous parlons des zones où c'est autorisé, mais elles trouvent les personnes naturistes plutôt sans gêne.
En gros, là, c'est parce qu'il y a des zones réservées, mais si demain, on acceptait que les naturistes, ils se baladent un peu partout, eh ben, je vous promets qu'ils se baladeraient partout.
Mais pour vous, c'est une forme d'exhibitionnisme, alors ?
Ouais.
Tino a la cinquantaine, il est actuellement chauffeur. Avec sa casquette blanche et sa veste de costard rayée, il découvre à haute voix...
Le paradis naturiste. Ben là, je crois que ça va heurter ma croyance et ma conviction. C'est pas bien.
Pourquoi c'est pas bien de vivre nu ?
Eh ben, pourquoi on a commencé à mettre des habits ? C'était pour cacher notre nudité.
Vous dites croyance, ça a un lien avec la religion ?
Oui. Ça a un lien avec ma religion, ma croyance. Moi, je suis protestant.
Alors, c'est intéressant. Je lui demande si, justement, le fait d'être dans notre plus simple appareil, sans signe extérieur de richesse, n'est pas le meilleur moyen de s'aimer les uns les autres. Après tout, Adam et Ève étaient nus.
Mais quand on retourne un peu dans la Bible, après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme s'est trouvé nu et, premièrement, ils se sont trouvés les feuilles de figue. Et quand Dieu, parce que moi, je crois à la Bible, Dieu les a couverts. Pourquoi Dieu les a couverts ?
Ah, certainement pour éviter le cap d'Agde, mais ça a foiré de ce côté-là. Alors que je salue Tino, je vois cette jeune femme planquée derrière un casier à vélo en train de me filmer. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Alexia Lacour. Ah. Et je suis programmatrice à France Inter.
Et t'as travaillé pour Zoom Zoom Zen ?
Et j'ai travaillé pour Zoom Zoom Zen.
Ah, elle se moque de moi en train d'arrêter les gens. Voilà. Elle me demande quel mot on a bien pu trouver pour notre dernière de la saison.
Le paradis naturiste.
C'est Amel qui s'est fait un kiff.
C'est quoi, c'est le Cap d'Agde ? Bah, je crois qu'il y a des gens qui font de la randonnée tout nu.
La randonnée.
Ah ouais ?
J'en ai jamais fait. Hein.
C'est génial.
J'ai l'air très renseigné comme ça, mais j'en ai jamais fait.
Ouais, je pense que t'es très renseigné. Oui. Mais c'est marrant parce que du coup, il y a les gens qui font de la randonnée classique, on va dire, qui croisent les gens de la randonnée. Et qui sont assez surpris.
Ah oui, ça peut surprendre. Je salue notre ancienne programmatrice pour tomber sur Joséphine. 70 ans, robe léopard, blonde platine.
Le paradis naturiste. Les femmes, ça va encore, mais les hommes, c'est moche.
Vous savez très bien pourquoi.
Quand vous voyez des gens faire des courses à poil dans leur camping, c'est moche, c'est pas beau, c'est pas sain, c'est pas propre.
Et beaucoup d'a priori, de blagues et certains clichés qui ressortent. Je me dis que c'est fou. Il me faudrait au moins une personne qui pratique le naturisme.
Ah oui, voilà.
Et là, mon coup de bol du jour, sortant de nulle part, ce monsieur, cheveux mi-longs, frisés, gris, tout de blanc vêtu, un Marcel très échancré. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander votre prénom ?
Georges.
Georges ? J'entends un petit accent, vous venez d'où ?
Oui, Canada.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis musicien. Le paradis naturiste. Passer Rock Beach à Vancouver.
Ah, vous connaissez ?
Ah, bah, j'y vais tout le temps.
Ah, vous êtes naturiste ?
Qui ne l'est pas ? On est né naturiste. Tout le monde est naturiste à un moment dans la journée.
Ah, c'est mon coup de bol du jour. Alors, Georges, qu'est-ce qu'on vient chercher dans le naturisme ?
Bah, sans doute cette liberté pour chacun, cette avant de mettre des couches pour affronter le monde, on affronte le monde tel qu'on est, dans son essence absolue, sans jugement.
Avant de laisser filer ma dernière rencontre de la saison, validée par Saint-Cours Florent, je lui demande à nouveau le nom de la fameuse plage.
Comment ça s'appelle, Wreck Beach ?
Wreck Beach, c'est sur le campus de l'université. Il faut descendre 500 marches à travers une forêt de pluie absolument sublissime, à travers laquelle passent les rayons quand il fait beau, et puis on arrive sur une plage qui est face au Pacifique. Là, dans cette plage, il y a toute une bande de hippies des années 60 qui joue une musique toute la journée, mais qui est incroyable, mais qui n'envahit pas le reste de la plage. C'est peut-être le plus bel endroit que je connaisse au monde pour le naturisme. c'est un paradis.
Et voilà, la boucle est bouclée. De la vingtenaire gênée, en passant par la religion de Tino jusqu'aux blagues et aux clichés, on voit bien que c'est une façon de vivre à l'image de Georges qui rend tout sauf triste. Alors longue vie à vos paradis naturistes.
Oui, pour fêter la dernière de la saison, on zoome cet après-midi sur une spécialité française, le naturisme, avec vous Amélie Lavin et Bernard Andrieux. Je rappelle votre livre, le livre de l'exposition au Mucem qui démarre la semaine prochaine, Paradis naturiste. Vous connaissiez la Wreck Beach de Vancouver ?
Moi non, mais toi oui.
Bernard, je connais un peu parce que j'ai fait des cours là-bas. Et,
mais c'est sur,
et
le des cours. C'est sur la plage même ?
Non, pas sur la plage même, mais en fait, en hiver, tous ces camps sont quand même fermés parce qu'il fait quand même moins 40. Et donc, les gens y vont dès qu'il fait beau, dès que c'est possible.
Pardon, mais c'est sur un campus universitaire ?
Oui, oui, tout à fait. Ah ben non, c'est une grande tradition. Alors, c'est très français qu'on ne peut pas se mettre nu dans les campings universitaires, mais en Allemagne, on peut se mettre nu à Berlin, on peut se mettre nu... voilà, le problème est législatif.
Pardon, mais dans les pays germaniques, j'ai l'impression qu'il y a moins de problèmes avec la nudité. Moi, j'étais au ski l'année dernière en Suisse alémanique. Voilà. Et dans le sauna, il fallait, en fait, on était obligés, il y avait écrit qu'on n'avait même pas le droit d'avoir la serviette. Et les gens se baladaient, ils n'avaient aucun problème, en fait. Et moi, j'étais un peu choqué, mais en famille, aucun problème. Il y a un problème français avec ça.
C'est pas la même culture. On le montre dans l'exposition et dans le catalogue, toute l'influence allemande. On a des auteurs allemands qui nous expliquent la Freikörperkultur, la culture du corps libre. Et eux, en fait, c'était une culture très populaire, socialiste, qui a essayé d'être récupérée par les nazis. Mais ils n'ont pas pu aller contre, parce que c'était ancré vraiment dans la pratique.
Beaucoup de femmes se mettent aussi topless sur la plage, donc sans leur haut de maillot de bain. C'est une façon d'être un peu naturiste ou c'est complètement autre chose ?
En fait, c'est pas nécessaire. Enfin, quand les femmes qui se mettent topless, je pense pas nécessairement au naturisme. Par contre, il y a un même désir de liberté. En fait, on n'a pas encore prononcé ce mot, mais moi, le mot que j'entends le plus, en fait, dans la bouche des naturistes, c'est ce mot-là. C'est surtout aujourd'hui, le naturisme contemporain, c'est un désir de liberté, de se défaire des oripeaux d'une société trop capitaliste.
Et le topless, on peut le faire partout aussi.
Et le topless, on peut le faire partout, même si parfois c'est plus compliqué aujourd'hui que ça n'était il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Ouais.
Petite question sur la rando nue, peut-être, qu'on a abordée.
Ça vous intrigue, ça.
Mais est-ce qu'elle est encadrée ?
Quentin est la voix française de la Fédération française de randonnée, je précise.
Textile.
C'est-à-dire
que, c'est important de le préciser. La rando nue qui croise d'autres randonneurs qui, pour le coup, sont habillés.
Il y a toute une codification. Oui. Et Bruno Sorez, à Marseille, organise des rando nues dans les Calanques.
Ah oui.
Et donc, il y a toute une codification où, en fait, on est nu, mais on a toujours une petite serviette. Un petit vêtement quand on croise des textiles. Et à ce moment-là, donc, on le...
Faut pas se rater, quand même.
Faut les voir arriver,
Mais bon, c'est très organisé.
Faut pas tomber.
Il n'y a pas de parcours réservé,
mais c'est ça,
évidemment, au naturisme. Donc, c'est la question toujours du partage.
Pour vivre heureux, vivons tout nus. On continue de zoomer sur le naturisme avec nos invités Amélie Lavin et Bernard Andrieux, dont je rappelle le beau livre « Paradis naturiste » aux éditions de La Martinière. On se posera notamment la question de savoir si le naturisme est émancipateur pour les femmes. Ce sera juste après un zoom-zoom test certainement haut en couleur, puisque je rappelle que le perdant finira l'émission dans le plus simple appareil avec son micro en guise de feuille de vigne. Le quiz à haut risque arrive juste après Yaya Bey, Sir Princess Bad Bitch. Well, I'm still a fucking winner, cause I did it my way. And I wouldn't ever rather be. And I wouldn't ever rather be. No other thing but the thing I am. No other thing but the thing I can. Do from the heart cause I know I am. That fucking girl just cause I am. See, the beautiful thing about me is every little beautiful thing on its way. Me. How favorite am I? Well, let's fuck up, run, find out. Ask me where my haters at. Where all them niggas in town now. See, the beautiful thing about me is every little beautiful thing is on its way. Other thing but the thing I am. No other thing but the thing I can. Do from the heart cause I know I am. That fucking girl just cause I am. See, the beautiful thing about me
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Pour l'ultime Zoom Zoom test de la saison, j'imaginais quelque chose d'un peu grandiose avec un enjeu fort, la nudité du perdant. J'avais demandé à Manon et Quentin de s'incliner devant moi en disant « Ave Mathieu Noël, ceux qui vont finir à poil te saluent ». Hélas, pour une sombre raison de lien hiérarchique et de respect de la dignité humaine, les RH m'ont signalé que ce ne serait pas possible. Tant pis, jouons normalement alors au Zoom Zoom Test. Un quiz qui nous entraîne évidemment au cœur des paradis naturistes et tout commence sur une plage de Sardaigne. Une plage que connaît bien Quentin, lui, puisqu'il y mouille souvent avec son tonton riche, celui qui possède un beau voilier, sur lequel Quentin aime à squatter dès les premiers jours de juillet. Nous sommes à San Velomilis, de la plage d'Isbenas, qui a une particularité intéressante. Depuis le mois dernier, par décret du maire, on peut s'y balader nu, s'y marier nu, ou y dîner nu.
Les trois.
S'y marier.
Si on peut faire un, on fait
Quentin, je vous sens très excité par cette émission sur le naturisme. Et vous avez envie de donner toutes les réponses à la fois. C'est compréhensible, mais ce n'est pas la bonne réponse. D'accord. Il y a une seule bonne réponse, c'est celle de Manon Mariani. Comme souvent hein, dans cette émission.
Ça va, si, ça c'est va, pas pour me vanter.
Oui, réponse
non,
B.
Non, c'est sûr, c'est pas pour vous vanter.
Oui, en régie, Cyril Lacarrière vient de s'évanouir en embrassant sa gourmette de communion. Dans cette commune de Sardaigne, visiblement peu respectueuse du mariage tel que notre Seigneur Jésus-Christ l'a imaginé, on peut depuis le mois dernier se dire oui, tout nu. Ainsi en a décidé Luigi Tedeschi, le maire de la ville, qui pour Cyril mérite le bûcher, et qui face aux critiques déclare « La nudité n'a rien à voir avec le sexe ». Est-ce qu'on est sûr de ça, Quentin? Si je vous dis nudité, vous pensez à quoi?
La bouillarde.
Voilà, CQFD.
C'est faux. Pas que.
Mais attention, top. Vous aimez l'action, vous aimez les sensations fortes, direction l'Angleterre en 2019. Cyril termine un séjour d'échange linguistique à l'ambassade américaine de Londres, un peu déçu par les petites anglaises qu'on lui avait vendues comme moins farouches dans ce film référence pour les hommes de sa génération.
C'est pas possible.
À nous, les petites anglaises.
Oh non.
Et pendant qu'une question lancinante trotte dans la tête de Cyril...
Why are you people having so little sex?
Un événement historique se déroule sous la houlette de l'association British Naturism. Et ceci n'a rien à voir avec ce lancement. Une association qui a, si j'ose dire, pignon sur rue. D'après vous, Manon, Quentin, quel record est battu ce jour-là? Le record du plus grand nombre de personnes nues dans le métro londonien? Le record du plus grand nombre de personnes nues dans un pub? Ou le record du plus grand nombre de personnes nues sur une montagne russe?
Ah!
C'est allé très très vite. On sent que vous avez progressé sur l'année dans le Zoom Zoom Test. Vous êtes meilleur dans l'analyse. Vous procédez par élimination. Oui. Et ce n'est pas la bonne réponse. Non, c'était la réponse C. Toujours plus loin, toujours plus fort, jusqu'au bout de l'extrême limite. Imaginez, vous vous apprêtez à monter dans Space Mountain. Ah. Et là, tout le monde est à poil. Cauchemar pour les puritains, fantasme qui se concrétise pour Manon. Chacun jugera. En tout cas, ils étaient plus de 200 naturistes à bord du Grand National, le célèbre Grand 8 du parc Pleasure Beach de Blackpool. Bon, ça, c'est un événement exceptionnel, mais plus globalement, en 2024, quelle activité est désormais possible, est-il désormais possible de pratiquer nu? Vous diriez que c'est le parachutisme?
Mais où ça?
Partout dans le monde. Le parachutisme, la randonnée pédestre ou le rugby?
Bah, les trois, non?
B.
Le rugby, je dirais.
Moi, je dirais la randonnée aussi.
Bah oui, on l'a dit, randonnée.
C'est
pas dedans.
C'est une très bonne réponse pour celui qui a dit les trois.
Et ah,
il me semble que c'est notre invité. Oui, ah bah, tout à fait.
Bah non, c'est moi, mais bon.
Ah, vous l'avez dit aussi. Ah, oui. D'accord, Manon, d'accord, très bien. Alors, je vous donne le point. Alors, la mêlée est déjà en soi un monde à part. Je vous renvoie à notre excellente émission sur le rugby avec Daniel Herrero. Mais la mêlée nudiste pousse le contact humain encore plus loin. Chaque année, en Italie, à Oderzo, un match oppose deux équipes de valeureux rugbymen entièrement nus. Manon, vous êtes sûr que vous voulez toujours aller en Corée du Sud?
Évidemment.
Oui,
bien sûr.
La rando naturiste, on en a parlé, elle existe, elle a même un nom, la rando nue, en plein développement. Quant au parachutisme naturiste, je pensais qu'il restait à inventer. Mais en régie, figurez-vous que Cyril Lacarrière me dit que ça existe et qu'on peut parfaitement sauter à poil. Alors, je ne sais pas s'il l'a pratiqué lui-même, peut-être qu'il voudra bien nous le dire. il a des vidéos, me dit-il, en régie, ce qui est assez choquant.
En GoPro, mais il sait pas de l'arracher.
Justement, top. Vous l'avez tous noté, il fait chaud cette semaine, très chaud. Si chaud que sur la terrasse arborée de son penthouse Montmartre 3, Quentin, lui, ne voit plus très bien pourquoi il s'embarrasserait d'un caleçon, qui d'ailleurs n'est même pas à lui, mais à Polo. D'après vous, à quelle sanction pénale s'expose Quentin en exposant justement son corps exagérément musclé à la vue de ses voisins ? Aucune, il est blindé, son penthouse est sans vis-à-vis. 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ? Ou 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ?
B.
A. excusez-moi, hein. C'est non pas choix blindé, mais j'ai pas de vis-à-vis.
Vous avez pas de vis-à-vis?
Non.
Bah, si vous avez un vis-à-vis en plus.
Mais ne le dites pas, c'est pas grave.
Excusez-moi, je balance.
Très bien, donc c'est une bonne réponse de Manon Marini, la réponse des amis naturistes. Et je sais que vous êtes nombreux à écouter Zoom Zoom Zen. Si le naturisme est légal en France, chez vous, dans votre jardin ou sur votre balcon, n'oubliez jamais qu'il n'est légal que dans la mesure où vous vous êtes assuré que personne ne pouvait vous voir. Ouais. Sinon, vous basculez dans l'exhibitionnisme. Et ça, c'est 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. J'imagine, Quentin, que vous n'aimeriez pas sacrifier 1 mois de salaire pour un caleçon. Alors, la prochaine fois, vous arrosez vos géraniums.
Que ce soit votre unité de compte.
Oui, oui, c'est clair.
J'ai pas compris la balle. Victoire de Manon Marie.
Pour le dernier de la saison.
Oui, je pense
c'est
Manon,
beau quand même. Hein. Ça résume bien la saison.
Ça résume la saison. Effectivement, une victoire nette et sans bavure. Paradis naturiste, c'est le nom d'un livre et d'une expo.
Je me dévêtis maintenant ou pas?
Non, pas tout de suite, pas tout de suite. S'il vous plaît, c'était... Non, c'était...
C'est une blague.
C'est une blague. Restez surtout bien habillés jusqu'au bout de l'émission. Parce que c'est une émission familiale.
Je l'ai perdu, c'est pour ça.
Non. Mon fils nous regarde en vidéo. Paradis naturiste, c'est le nom du livre et d'une expo au MUCEM. Les auteurs de ce livre, Amélie Lavin et Bernard Andrieux, sont toujours avec nous pour zoomer sur ce phénomène de société qui est devenu le naturisme. Amélie, le corps des femmes est évidemment le plus surveillé. On en parle souvent dans l'émission, dans notre société. Les normes de beauté sont partout, dans nos pubs, au cinéma, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'en pratique, pour les femmes, le naturisme, ça va avec l'abolition de ces canons de beauté? Est-ce qu'il y a de ça dans le naturisme?
Alors, l'abolition, n'allons pas jusque-là quand même, n'exagérons rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le naturisme contemporain, mais là, c'est vraiment récent. Un phénomène, disons, 10-20 ans maximum, il y a vraiment, oui, une sorte d'allègement en fait, des injonctions corporelles générales pour les hommes et pour les femmes. Et beaucoup de femmes qui témoignent du fait que, en fait, la nudité sur les plages naturistes, par exemple, est vécue de façon beaucoup plus libre, en fait, sans sentiment d'être observée, matée, etc. Quoi.
Mais ça, c'est quand on n'est pas naturiste, c'est un propos qu'on entend souvent. Oui. On a du mal à y croire. Ce discours du fait que, je sais pas, une pratiquante qui confie au magazine Cosette, j'ai vu ça, que sur une plage naturiste, on voit les personnes nues, mais on ne les regarde pas. Il y a un respect qui n'existe pas sur une plage normale.
Alors, en fait, il faut rappeler quand même que la dimension utopiste dont on parlait tout à l'heure, elle est sans doute toujours très présente en fait, dans les mentalités, dans les pratiques naturistes. Et puis, à partir du moment où tout le monde est nu, en fait, il y a une sorte de barrière sociale qui tombe aussi. Donc cette dimension est importante, c'est-à-dire qu'il n'y a plus non plus de marqueurs sociaux très forts. Ouais. Et finalement, la nudité exposée, elle oblige aussi à un respect mutuel. Et elle l'impose de fait de façon assez naturelle.
Et c'est pas compliqué d'être naturiste aujourd'hui avec les smartphones, vu que tout le monde en fait maintenant a un appareil photo. Je me dis que ça peut peut-être en complexer certains.
Il y a un certain nombre de règles qui sont imposées dans les clubs, et notamment le fait de quand moi je vais à la piscine naturiste, on nous interdit d'utiliser les portables. On ne sort pas des sacs. On peut pas faire de photographie.
Okay.
Donc même si tu regardes ton SMS, là il y a un gars qui se précipite pour me dire il faut que tu ranges ton téléphone, etc.
Oui, Bernard, déconne pas.
C'est un sujet vraiment.
Pas de musique. Pas de musique non plus, ça veut dire
Si, il y a beaucoup de musique.
On n'a pas son portable, quoi. On peut pas.
Bien sûr.
Il y a des endroits où, bien sûr, on peut avoir son portable, mais par contre, il y a des règles qui sont imposées à tous les pratiquants et pratiquantes. Et en fait, il y a vraiment un système de régulation interne, c'est-à-dire que, en fait, pour permettre à ces communautés de continuer à vivre et à survivre, il faut que ça fonctionne, en fait. Donc, les gens se régulent eux-mêmes.
En 2016, le Conseil de Paris a voté une loi d'expérimentation de naturisme en plein air. Ça se passe dans le bois de Vincennes. Déjà, à quoi ça ressemble? Vous y êtes allé?
Moi, j'y suis jamais allé. Toi, tu y es.
Oui, c'est un espace, en fait, qui est libre, qui est autorisé, qui n'est pas clôturé. Et dans lequel il y a une entrée symbolique, dans lequel les règles de la communauté naturiste sont posées, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation de troubles érotiques, sexuels. On vient là pour, c'est pas des lieux de drague, hein. C'est des lieux voilà, où on vient partager le plein air ensemble. Et de fait, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a, quand même une éthique naturiste qui est très forte.
Mais on disait tout à l'heure, il n'y a pas un naturisme, il y a des naturismes. Alors j'ai compris que globalement, c'était quand même le retour à la nature. Mais il y a quand même un naturisme un peu plus coquin. Au Cap d'Agde, c'est quand même pas...
Oui.
Là, ça fricote,
Alors,
beaucoup quand même.
Le Cap d'Agde, c'est compliqué parce que dans l'exposition, Thomas et Jean-Pierre, toute l'équipe, ont fait un travail énorme avec la famille Voltra. Donc, ils sont eux qui ont fondé, en fait, le Cap d'Agde, naturiste. Et donc, la démarcation est très claire. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un espace naturiste et c'est devenu à côté.
C'est à côté, oui.
C'est à côté, ça n'a jamais été dans les espaces naturistes. C'est-à-dire que les gens viennent à l'espace naturiste et éventuellement, ils vont à l'extérieur de l'espace naturiste pour, pratiquer.
C'est énorme, le Cap d'Agde, en fait. C'est une ville dans la ville.
C'est combien de monde l'été, le Cap d'Agde?
C'est des milliers de touristes, c'est énorme en fait. Ouais, je saurais pas dire un chiffre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une micro, enfin une ville dans la ville, et qu'il y a effectivement des espaces réservés en quelque
on
sorte.
On aborde dans le catalogue avec Camille, on a fait un papier justement sur sexualité et naturisme, et que c'est vrai qu'au départ, il y avait une sorte de jansénisme, enfin de l'idée qu'il fallait se restreindre, il fallait vraiment retenir son désir. Et en fait, quand même, il y a quelque chose qui se passe dans les années 70 qu'on appelle la libération sexuelle, la libération des mœurs. Et donc, dans une certaine mesure, la nudité, avec l'apparition de revues comme Playboy en 1950, puis Union, enfin, vous voyez, toute la sexologie qui va apparaître. Donc, il y a une libération. Et donc, le naturisme a été confronté aussi à ce mouvement-là. Et à partir de là, vous avez des variations qui vont des gens qui sont complètement ascétiques à des gens, effectivement, qui vont partager des communautés d'appartenance de genre, des communautés d'appartenance sexuelle. Je veux dire, pourquoi pas? Je veux dire, simplement, effectivement, il faut bien que les lieux soient identifiés comme différents.
Et juste, dernière question, Amélie, le fait que le MUCEM s'intéresse au naturisme, ça dit quelque chose de notre société aussi? C'est, le regard est en train de changer?
Eh bien oui, bien sûr. Oui, en fait, donc le MUCEM, c'est un musée de société. Et en fait, nous, on a décidé de porter ce projet parce qu'on a considéré que le naturisme était un vrai phénomène de société qui connaissait un nouveau regain d'intérêt avec des pratiquants qui se développaient à nouveau. Et en même temps, qu'il y avait cette dimension historique aussi, qui permettait de comprendre la fabrique d'un phénomène de société dans sa complexité. Cette dimension aussi qu'on a évoquée, le fait qu'il y ait des naturismes. Et d'ailleurs, l'expo est bien au pluriel. Paradis naturiste, il y a un S à naturiste et on y tient beaucoup.
Il faut aller voir cette expo au MUCEM. Il fait chaud sur France Inter, mais on est bien. Dans quelques instants, c'est Marie Debreur qui nous rejoindra pour signer la toute dernière chronique humour de la saison. Chronique humour hors d'où ça sort, bien sûr. Mais Manon, c'est fébrile que je me tourne vers vous. Car comment imaginer que dès demain, je me retrouve seul face à l'immensité angoissante des réseaux sociaux? Que vais-je devenir sans vous? Comment m'y retrouver dans cette jungle numérique? Je crois que je vais me cantonner, vous savez, à ce que je connais, c'est-à-dire MySpace et copains d'avant. Mais en attendant, vous êtes encore là et vous nous parlez d'une nouvelle tendance qui émerge du côté des applis de rencontres.
Et si on datait un écolo, quelqu'un qui partage nos valeurs face à
Pourquoi
la crise écologique, une personne engagée, potentiellement militante, un date éco-responsable, quoi? Eh bien, figurez-vous que ça a maintenant un nom, le green dating. Et oui, des utilisateurs des applications de rencontres se mettent au vert. Ils ne veulent plus seulement rencontrer quelqu'un avec lequel ils échangent des blagues, ils veulent parler écologie, ou du moins, être sur la même longueur d'onde sur ce sujet avec leur partenaire. Preuve qu'il y a une vraie demande, certaines applications se sont mises à encourager leurs utilisateurs à green dater. C'est le cas de Bumble, par exemple, qui a ajouté l'année dernière un badge central sur l'écologie. Des badges, ce sont des centres d'intérêt que les utilisateurs peuvent mettre sur leur profil pour signifier ce qu'ils aiment faire dans la vie. Donc maintenant, entre danser et regarder des couchers de soleil, il y a aussi un badge environnement. Et puis, vu qu'il existe aujourd'hui des applications de dating pour tout le monde, pensez à Carole Buisson et Droite au cœur.
Carole, si tu nous écoutes.
Il y a aussi applis spécialisées pour des rencontres entre écolos. Par exemple, Green Single, ambiance prof de yoga et randonnée pédestre, potentiellement nue, ou encore Green Lovers, qui se définit comme un site de rencontre contre bio. Bref, vous avez compris un peu la vibe.
Oui, notre réalisateur Ghislain Fontana aurait pu s'y inscrire d'ailleurs.
Exactement.
C'est
totalement. Alors, on caricature un peu, mais les sites de dating écolo sont quand même de plus en plus nombreux. Ça montre encore à quel point l'écologie et la préservation de la planète deviennent des sujets essentiels, notamment chez la jeune génération. Une jeune femme de 26 ans a par exemple dit au site Mashable qu'elle ne voulait plus dater des hommes qui ne s'y intéressent pas. Elle précise que pour elle, l'écologie n'est pas une passion, mais c'est un mode de vie. Et que c'est pour ça que son futur partenaire doit le prendre au sérieux. En gros, ne suffit pas de liker 3 posts de Camille Etienne sur Instagram. Le green dating, c'est bien plus que ça. C'est de l'engagement sur la longue durée.
Moi, j'ai liké 4 posts de Camille Etienne.
c'est bien, Mathieu.
Déjà, vous nous dites que c'est devenu compliqué de dater. Là, ça ne va pas aider. Quand même.
Disons que ça va permettre de faire le tri assez rapidement pour les personnes qui veulent se mettre aux rencontres vertes. Et puis, on avait fait une émission sur la dating fatigue causée par les applications. Et bah, peut-être que le fait d'être un peu plus exigeant dès le départ sur ses attentes, ça va permettre d'éviter ça. D'autant plus que ce n'est pas un petit phénomène. La preuve, le site de rencontre OkCupid a dévoilé que le changement climatique était le thème numéro 1 des échanges sur son site en 2022. Et puis selon une étude de Bumble, pour un quart de ses utilisateurs, il est essentiel que leur partenaire s'engage activement dans la politique et les causes sociales. Et c'est encore plus important pour la Gen Z, car pour la moitié des utilisateurs de cette génération, c'est impensable de ne pas partager les mêmes opinions politiques que son partenaire. C'est un sujet qu'il veut même aborder dès le premier rendez-vous. En même temps, j'ai envie de dire, vu le climat actuel, ça paraît logique. Imaginez le day dans un bar entre un supporter de Bardella, un autre de Philippe Poutou. C'est sûr qu'il vaut mieux se faire une idée du bord politique de l'un et de l'autre avant. Ça peut créer des situations un peu malaisantes. Voilà.
Effectivement, dit comme ça, on peut comprendre la Gen Z.
Totalement. Ce qui est sûr, c'est que cette tendance du green dating montre un véritable changement, ou du moins une envie de changement dans la manière de rencontrer des personnes. Ça fait déjà pas mal de temps que je vous dis que la Gen Z en a marre des applications de rencontre, qu'elle ne veut plus de coups d'un soir et qu'elle souhaite plus de connexion intellectuelle avec ses dates. Ce green dating en est l'exemple. Je peux vous dire qu'à mon époque, sur les applis, personne me demandait si j'étais en faveur de l'écologie. Limite,
ça remonte maintenant.
Ça remonte.
Ça se voyait, on savait.
Oui, bon, merci Quentin. Alors évidemment, il y aura toujours des personnes pour faire du greenwashing, un peu à la manière des mecs qui se prétendent féministes sur les applis en disant qu'ils sont fans de Mona Chollet. On les connaît, on vous voit. Ma hantise, j'espère qu'ils ne feront pas la même chose avec Greta Thunberg. En tout cas, les écolos pourront maintenant s'engager durablement avec un partenaire qui les comprend.
Merci Manon. Et puisque c'était la dernière veille sanitaire de la saison, je me permets de révéler ce qui s'est dit dans l'open space au sujet de votre sujet du jour. Une manière aussi de teaser une nouvelle séquence de l'émission que vous découvrirez à la rentrée et qu'on a baptisé le Zoom Zoom Zinc. En gros, ce qu'on pense vraiment des sujets qu'on traite. Sur le green dating, Manon a dit « C'est des écolos qui veulent pécho des gens qui pensent comme eux, donc des gens chiants. » Tout ça est vrai. Ce à quoi Quentin a ajouté, je cite « Non, il y a certainement des bons coups parmi les écolos. » Ça sera ça, le Zoom Zoom Zinc. Une version de Zoom Zoom Zen, le politiquement correct en moins. En attendant, restez avec nous. Voici la poignée. Les mauvais garçons sur Inter.
Le feu chien ne va qu'à moi, la bêtise ne te va pas. L'élégance lit sur mes hanches, ton intolérance tire au plus bas. Le rimmel me donne des ailes, la haine te donne mauvaise haleine. Chacun est
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Dernière chronique de l'année avec Marie De Breuer. Sans vouloir m'avancer, il semblerait que vous connaissez bien le sujet, le naturisme.
Alors Mathieu, pas du tout. J'ai un nom de famille d'origine germanique et j'ai aucune pudeur, certes, mais je trouve que vous faites un léger raccourci. C'est pas grave. Pour cette dernière de la saison, j'aimerais commencer par vous remercier. Vous remercier pour cette opportunité de faire des chroniques sur France Inter, cette radio qu'écoutait ma mère tous les matins au petit déjeuner. Vraiment le son qui a bercé mon enfance, quoi. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais faire ma première chronique sur Zoom Zoom Zen, elle m'a répondu « Super, Mathieu Noël, je l'adore. Énorme dragueur de maman, va. » Puis il y a eu une deuxième chronique, une troisième, une quatrième. Et là, ma mère m'a dit « Bon, Marie, faudra peut-être penser à parler d'autre chose que de bites. » Et c'est là que, aïe, 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 le thème du jour, paradis naturiste. La tuile, maman, je suis désolée, mais tu me dis naturiste, je vois une brochette de pénis. Voilà. Pénis, poivron, oignon, pénis, poivron, oignon. Eh, hey, ramène-nous ta chipo, Cyril. Oula, pardon.
D'accord.
Je suis vraiment désolée, je suis allée un peu loin dans la métaphore barbecue.
D'accord.
Mais je me demande comment vous choisissez vos thèmes d'émission. Hein. J'imagine la conf de rédac, on pourrait faire pinard comme sujet. Bah Manon, tout le monde sait ce que c'est le pinard. Ouais, ok, moi j'aime bien le pinard. Là, le naturisme, bon. En plus, moi, j'ai une hyper capacité à la projection mentale. Et là, c'est simple, depuis le début de l'émission, je vous imagine tous à poil. Voilà. Et oh mon Dieu, c'est énorme. Je parle évidemment du micro de Quentin. Et pas du pénis, bien sûr, qui lui, peut-être, est micro, qui sait. Micro pénis, poivron, oignon, micro pénis, poivron. Ah tiens, une tomate cerise, tu la veux? J'aime pas ça. Passe-moi la sauce béarnaise, Helmut. Ah. Bah monsieur est circoncis, y a pas de prépuce. Marie? Oui Marie? C'est quoi la petite lumière rouge là sur ton front? Ah putain j'ai dit prépuce. Oh ça va, hey, je parle d'anatomie ça. Passe-moi cette foutue sauce béarnaise Helmut. Oh. Attendez. Je sais pas ce que j'ai depuis le début de cette chronique, mais je me sens pas très bien. Je sens que y a un autre personnage insupportable que je vais magnifiquement interpréter qui voudrait prendre la parole et. Salut Marie, respire par les omoplates. Hein? Tu sais, le naturisme, c'est le retour à la nature, à notre mère nature. On dit bye-bye aux vêtements, on dit bonjour aux sgeg d'Helmut, et on dit bye-bye au complexe sur nos corps imposés par cette société patriarcale et capitaliste. Hé, moi je suis pas complexée, moi! Hein? Ah bon? Oh, parce que t'es un peu. Voilà. Y a matière à complexe, quoi, mais elle est grossophobe en plus! Attends, ma belle, t'es imblairable, je reprends ma chronique. Ça me fascine. À chaque fois que je parle avec un naturiste, le premier argument qui me balance, c'est mais c'est génial, il y a tellement de corps différents et personne ne se juge, c'est génial, en faisant un aller-retour avec le regard entre mon bide, mon visage, mon bide, mon visage. Ah, mais ma petite Marie! Il est tout mignon, ton pitou, Marie! Y a Helmut Zigounet à l'air qui vient de débarquer. Oh là là, stop, je crois qu'il est vraiment temps hein, que je parte en vacances. Il me faut une brochette, sieste, plage, poivron, oignon. Et tiens, ta petite sauce béarnaise, ma belle! Merci, Helmut. Et elle est votée dimanche, hein, que je puisse continuer à faire des blagues à la rentrée, moi.
Ça, c'est important aussi. Merci, Marie De Breuer. Plus belle imitation de l'allemand depuis Jacques Villeray dans Papy fait de la résistance. Je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Marie, sans tout dévoiler, parce qu'on reste pudique, nous, on peut dire qu'on vous retrouvera à la rentrée, peut-être même plus fréquemment encore qu'aujourd'hui. Merci, Amélie Lavin et Bernard Andrieux. Je rappelle l'expo au Mucem qui arrive et votre livre Paradis naturiste aux éditions de La Martinière pour découvrir toute l'histoire et la philosophie, évidemment, qui se cache derrière le naturisme. Merci à tous, Manon, Quentin, Cyril, à la technique, c'était Selim Guéribi, à la réalisation, Ghislain Fontana. Merci aussi à Amel Caldi, Fanny Léonore Crouzet, Sybille Bulou, ainsi que Cléo Grisper, Juliette Dronet, Étienne Bertin, tous ceux qui ont contribué au succès de Zoom Zoom, qui prend donc quelques vacances. On se retrouve en direct le 26 août, mais on ne se quitte pas totalement puisque dès lundi et tout l'été, vous pouvez retrouver le meilleur de Zoom Zoom Zen chaque jour entre 11h et midi. Oui, la case de Nagui, ça va permettre à Quentin de commencer à se projeter.
Voilà. Mathieu. On va dire un truc, parce que vous avez remercié tout le monde. Oui. Moi, je vous remercie, vous.
Oh, voilà. Oui, c'est
merci,
vrai.
Merci, mon vieux. Ça a été une saison,
merci,
une belle saison très chouette. Merci, à vos
Mathieu.
Côtés. Bravo, mon vieux Sarou coquin.
Mon vieux Sarou coquin est content aussi. Bisous à tous. Merci encore. Et très bel été à tous sur France Inter.